Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission Café Pouchkine. Vous savez sans doute qu'en Russie, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, il y a une façon à la fois respectueuse et affectueuse de s'adresser à lui, c'est de l'appeler par son prénom, suivi du patronyme. Le patronyme, c'est le prénom du père, suivi de Ovitch ou Ofna pour une dame. Par exemple, les écoliers russes s'adressent à leur instituteur ou institutrice en utilisant le prénom et le patronyme. Pour vous donner un exemple historique, mais un peu passé de mode, on ne disait pas Lénine, on disait Vladimir Ilitch. De même que pendant trop longtemps, on n'a pas dit Staline, on a dit Iosif Vissarionovitch. C'est déjà un peu plus difficile à prononcer pour des Français. Et je voudrais aujourd'hui vous parler d'un poète que les gens, la plupart du temps, appellent Alexandre Sergeïevitch. Et Alexandre Sergeïevitch, c'est Pouchkine. Il y a très peu d'écrivains dont les gens parlent en utilisant uniquement le prénom et le patronyme. Si, il y a peut-être Tolstoï, Lev Nikolaïevitch. Mais revenons à Pouchkine. Alors Pouchkine, c'est le poète par excellence des Russes. Malheureusement, comme tous les problèmes de traduction de la poésie, quand on veut le mettre en français, on obtient tout à fait autre chose que ce qu'est la poésie russe, mais c'est le problème pour tous les poètes de tous les pays. Alors, il est né en 1799 et il a une particularité dont apparemment il a souffert dans sa jeunesse parce qu'on se moquait de lui. Son arrière-grand-père était noir. C'est-à-dire que le grand-père de sa mère s'appelait Abraham Petrovitch Hannibal. Étrange histoire que celle de cet ancêtre Hannibal. On suppose que il était d'origine d'Abyssinie. Certains veulent qu'il ait été camerounais. En fait, c'est très compliqué et pratiquement on n'a aucun moyen de le savoir. On sait qu'il a été capturé tout enfant par des marchands d'esclaves qui travaillaient au service des Ottomans. Et il a eu cette chance extraordinaire. Un jour, il a croisé la route de Pierre Ier, Pierre le Grand. Et Pierre Ier a senti dans cet enfant une personnalité exceptionnelle. Il l'a affranchi, il l'a anobli, et lorsque Hannibal s'est converti à l'orthodoxie, c'est Pierre Ier qui a été son parrain. Il a fait une carrière exceptionnelle. Il a fini général, grand chef de l'armée russe, et c'est une de ses filles qui a épousé un Pouchkine, une vieille famille noble russe. Alors, Alexandre Alexeïevitch, c'est quelqu'un qui parle parfaitement le français, très tôt. Il lit en français, et lorsqu'il était au lycée, lorsque déjà il écrivait des vers que certains admiraient, on l'appelait le français. Il a écrit des vers, il s'est fait connaître avec des vers qui n'ont pas plu à tout le monde, il a été envoyé en exil. Il a vécu plus près de sa nourrice, qui s'appelait Arina Rodionovna. Cette nourrice lui a raconté des tas d'histoires du folklore russe que Pushkin a réutilisé après dans ses vers. C'était un des premiers à faire entrer dans la littérature russe, dans la littérature dite savante, toute la culture populaire du peuple russe, et Dieu sait si elle est riche. Alors il a écrit, parmi les œuvres importantes, Eugène Onéguine, il a mis 7 ans à l'écrire. Eugène Onéguine, c'est un roman en vers, l'histoire d'un dandy mal dans sa peau. Un jour, il est chez des petits propriétaires paysans. La fille des propriétaires tombe amoureuse de lui, elle lui envoie une lettre. Alors, au lieu de profiter de l'occasion, il lui fait comprendre que il ne l'aime pas, jusqu'à ce qu'il la retrouve des années plus tard. Il découvre qu'il l'aime, mais il est trop tard, elle est mariée. Pushkin a aussi écrit aussi une œuvre de théâtre que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent à travers l'opéra qu'en a tiré Moussorgski, Boris Godounov. Ce qu'on connaît surtout de Pushkin, en français, ce sont ses nouvelles, La fille du capitaine, La dame de pique, ainsi qu'une pièce en un acte, Mozart et Salieri. Mozart et Salieri qui sera reprise plus tard pour un film célèbre, où, selon une légende, Salieri aurait empoisonné Mozart par jalousie. Évidemment, les historiens ont depuis longtemps mis cette fable à sa place, mais la pièce est quand même très intéressante. Et alors, Pushkin, en 1831, se marie avec Natalia Goncharova. Apparemment, le ménage est assez heureux, quoique Natalia est très dépensière. Pushkin a beaucoup de mal à faire face aux frais du ménage. Et puis, entre en scène un jour un personnage étonnant. Georges Charles de Écquerin Dantès. Dantès, D'ANTHES. S'il est baron, il est né à Colmar. Il est parti pour Saint-Pétersbourg et là, il a rencontré le ministre plénipotentiaire des Pays-Bas, le baron von Écquerin, qui a décidé de l'adopter. Le père de Charles Dantès a accepté. Alors pourquoi est-ce que le baron von Écquerin a adopté Georges Dantès? Les mauvaises langues n'ont pas manqué de dire qu'il y avait une histoire de relations homosexuelles entre eux. Et puis, Georges Dantès fait la cour à l'épouse de Pushkin. Les mauvaises langues se déchaînent. Pushkin reçoit des lettres d'insultes en le traitant de roi des cocus, etc., etc. Au point que seul un duel devient inévitable. Alors, pour éviter le duel, d'abord, Dantès demande en mariage la propre sœur de Nathalie, Catherine, et se marie avec elle. Donc, Pushkin et Dantès sont beaux-frères. Les rumeurs continuent à courir. Le duel inévitable a lieu le 8 février 1837, le 27 janvier pour le calendrier orthodoxe. Pushkin est blessé. Il meurt 2 jours plus tard dans d'atroces souffrances. Alors, ce qui est intéressant, c'est savoir ce que devient Dantès. Dantès, on le fait passer en jugement, mais bon, il est lié au... Il est le fils adopté, mais fils du ministre plénipotentiaire des Pays-Bas. Et Dantès est reconduit à la frontière. Il emporte avec lui la paire de pistolets du duel. C'est pour la raison pour laquelle cette paire de pistolets s'est retrouvée un beau jour au musée d'Amboise, avant que le président de la République la rende à la Russie. Et Dantès devient conseiller général du Haut-Rhin. Il devient sénateur en 1852. Il va mourir en 1895, entouré d'honneur, d'une nombreuse famille, et apparemment en ayant plus ou moins oublié le poète qu'il avait tué en duel. Cela dit, si on est à peu près certain qu'il n'y a rien eu entre Georges Dantès et Natalia Pushkin. Pushkin s'était déjà battu en duel à plusieurs reprises. D'ailleurs, dans Eugène Onegin, il y a une scène de duel qui est très, très célèbre. Et on se dit que, mort si jeune, Pushkin avait peut-être encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire. Mais je ne peux m'empêcher de vous conseiller, si vous en avez l'occasion, de lire au moins les nouvelles. La tempête, le coup de pistolet, la fille du capitaine et bien sûr la dame de pique, dont Tchaïkovski fera un opéra très célèbre, tout comme il a fait un opéra d'ailleurs sur Eugène Onéguine. Je vous remercie de m'avoir écouté.